www.mindfulbusinesscoach.com.
Bonjour et bienvenue sur N.com, le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le dernier de la saison 2 et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je me nomme René Nkowa et aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre les discours de haine et la désinformation avec Desmond Ngala. Desmond Ngala est un analyste politique et des médias sociaux originaire de la région du nord-ouest du Cameroun. Il est titulaire d'un master en sciences politiques obtenu à l'université de Yaoundé 2. Après ses études, il est entré dans la vie active en travaillant comme analyste sur des projets liés aux médias numériques. Son travail consiste alors à analyser les comportements des internautes sur les médias sociaux dans les contextes de la crise anglophone et de la crise électorale de 2018 au Cameroun. Il est depuis 2020 le président de Civic Watch, une association dont l'objectif est de mobiliser les communautés pour lutter contre les discours de haine en ligne et hors ligne. Il pilote aussi pour le Cameroun l'initiative Defy Hate Now, qui lutte contre les discours de haine, la rhétorique des conflits et les incitations à la violence basées sur les réseaux sociaux. Pendant les 20 prochaines minutes, nous parlerons avec cet acteur de la société civile des défis liés à la lutte contre les discours haineux et la désinformation en contexte camerounais. Bonjour Desmond Ngala.
Bonjour René, je suis ravi d'être avec vous sur ce podcast.
Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes le fondateur de l'association Civic Watch et en même temps, vous êtes le responsable pour le Cameroun du Defy Hate Now, qui est une initiative qui a été créée en Allemagne, qui vise à réguler et à combattre les discours de haine en ligne. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a poussé à vous intéresser à la question des discours de haine, qu'ils soient proférés en ligne ou alors en dehors, dans la vie ordinaire?
Je suis de souche anglophone, c'est-à-dire je suis de région du Nord-Ouest. Mais après mon bac, mon père a décidé, parce que ce n'est pas moi qui l'avais décidé, mon père a décidé que je ferais mes études supérieures à Yaoundé. Et je suis atterri à Soa avec aucune connaissance en français. Aussi des cultures assez différentes, à Chalet et autres. Et me rappelle un jour, j'ai quitté le restaurant pour aller à l'amphi NB11 et il y a un groupe d'étudiants qui se mettaient à chanter, se moquer de moi. Les camarades de classe, en fait, je les connaissais très bien parce que j'avais porté le dantiki. Le dantiki, c'est une habit. Ils ont porté dans le grass field et c'est reconnu parce que c'est ouvert au niveau un peu plus bas, au niveau des aisselles. Et puis, vous avez les deux grandes pochettes. Et ici, il chantait, il y a les choses qui arrivent aux autres, commencent déjà. Donc, ces chansons d'un artiste camerounais revenaient à dire que moi, j'étais plutôt soit un danseur, soit quelqu'un qui était de ces souches-là. Et il y avait deux choses à faire. Soit je tournais et puis je rentrais à la maison et je ne revenais jamais à l'amphi. Mais soit j'ai persisté et puis j'ai continué. Et j'ai persisté et puis ils ont laissé. Un professeur avait pris l'acte de ça, père son âme, le professeur Kono, et il m'avait dit que c'est lui d'ailleurs qui me fait comprendre qu'il y a quelque chose comme un discours de haine. Moi, je savais qu'il y avait des insultes, je savais qu'il y avait plein d'autres choses, mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose comme un discours de haine. Et il essayait de nous expliquer que le discours de haine, c'est tout type de communication qui vise quelqu'un à base de ses origines. Et il avait même décidé de me confier à l'une de ses doctorants pour dire si vous avez des problèmes au sein du campus, veuillez contacter ces personnes. Et il y avait deux choses qui m'avaient marqué. Un, l'université, parce qu'il était chef de la scolarité, qui décide de m'accompagner. Mais deux, voilà quelqu'un aussi qui est francophone, qui n'est pas anglophone, qui ne me connaît pas, qui décide de prendre le sujet à corps. Et durant tout mon cursus universitaire, j'ai essayé de me dire, à chaque fois, il fallait faire des petites recherches et autres. J'ai fait, et un jour, après mon master, j'ai tombé sur une opportunité de travailler réellement sur les discours de haine au Cameroun. J'en ai postulé, j'ai été retenu. j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait deux problèmes majeurs que j'avais constatés. La première, c'est que l'événement de l'Internet a poussé le discours plus vite qu'on avait l'habitude de l'avoir. C'est-à-dire, dans le passé, on avait des choses qui se passaient soit à la radio, soit à la télé, sur la presse écrite ou bien de bouche à oreille. Mais maintenant, de ta chambre, vous pouvez atteindre plus de personnes. Et je crois que, je me rappelle à l'époque, dans les 2010, 2011, 2012, qu'on avait faim, mais on préférait acheter les data pour surfer sur le net et voir ce que d'autres personnes essayaient de dire, mais on préférait ne pas manger et puis faire cela. C'est comme ça que je me suis intéressé à la question, mais aussi en tant que jeune, j'ai vu beaucoup de personnes se laisser insulter, se laisser traiter différemment à cause de les origines ethniques et sociologiques. Et je me suis dit non, peut-être je vais contribuer à la solution et non à la à pour pousser ce type de discours pour que ça continue.
Je rappelle aux auditeurs que la chanson à laquelle tu fais allusion, c'est une chanson de Prince Afouakam, qui est anglophone à la souche, et qui, à un certain moment, au Cameroun, servait de moyen d'identification ou de désignation des anglophones. Donc, merci de nous avoir fait part de ce parcours qui t'a mené de l'étudiant de la faculté de sciences politiques à Soa à une personne qui, aujourd'hui, lutte contre les discours de haine. Et quand on parle de discours de haine, on parle aussi de son corollaire qui est la désinformation. C'est quoi la désinformation et en quoi la désinformation diffère du discours de haine?
Et la désinformation a la particularité à ce qu'une information peut être originale, mais le sortie de son contexte et dit autre chose. Je vais prendre un exemple très clair. On vous dira que le Cameroun jouera lors du 22e Coupe du Monde au Qatar contre le Japon. Bel et bien le Camerounais est là-bas, mais il ne jouera pas contre le Japon. Bon, pas à ce stade-ci, peut-être plus loin devant. Mais vous constatez que l'information a des facteurs qui sont vrais, mais qui ne sont pas d'actualité. Et souvent, nous avons ce problème de comment la désinformation se retrouve dans les discours de haine. Et c'est d'où il y a véritablement un problème. Parce que je vous dis quelque chose qui est très simple, que nous constatons chaque jour. Des personnes qui se disent moi, je n'aime pas les Bamiléké, tous les Bétis sont des voleurs, et ainsi de suite, qui s'est mis à poser ce type d'actes ou bien des discours. Et ils prennent une information qui souvent n'est pas complètement vraie et ils l'utilisent pour pouvoir atteindre quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui pousse à ce qu'il y a toujours ce corollaire entre désinformation et les discours d'hyène qui visent à atteindre quelqu'un, mais aussi quelqu'un qui prend une information, il la manipule, il la change, mais qui vise aussi toujours à atteindre quelqu'un. Et c'est pour cela que c'est dans nos travaux, nous essayons de plus en plus de toucher ou bien de pousser, d'avoir des clarifications ou bien des distinguos entre ces deux. Et il dit toujours, genre, faites attention, la désinformation peut amener au discours de haine, comme le discours de haine peut nous amener vers la désinformation.
Quels sont les impacts que la propagation des fausses nouvelles et des discours de haine ont sur la société camerounaise?
Ça n'est qu'un impact négatif qui est beaucoup plus une préparation psychologique au pays. Je vous dirais que en 1994 au Rwanda, ce n'était pas des choses qui sont arrivées. Les gens ne tuaient pas on ne tuait pas, on ne se tuait pas parce que, quand je dis nous en tant qu'Africains, on ne se tuait pas parce que on se détestait autant, mais c'est parce qu'il y avait un travail psychologique qui avait été fait. On accuse la radio Mille Collines, mais des recherches montrent que ça allait au-delà des radios Mille Collines et de tout autre type de communication qui passait dans les communautés et les villages chaque jour. Mais le discours de haine, son impact est négatif. Ça rabaisse l'estime de soi. ça touche des émotions des personnes, ça contribue à l'exclusion des individus d'un groupe. Et non seulement ça freine aussi la communication entre les personnes qui sont de deux de langues ou bien, je vais dire, de backgrounds différents. Mais ça fait en sorte que dans un pays comme le Cameroun, comme la nôtre, qui est tellement complexe, qui en a, je vais dire, plus de 200 langues, plus de 200 tribus, vous pouvez passer toute une journée sans côtoyer quelqu'un qui parle ni votre langue que vous le connaissez. Vous comprenez que le discours de haine en jeu, ça veut dire il faut pas les parler, il faut pas les regarder, il faut pas les considérer. On ne voit pas, on sort du cadre d'humain pour regarder autrement. Quand on vous appelle cafard, quand on vous appelle un chien, quand on vous dit vous êtes un rat, l'autre personne qui entend ce mot, quand il vient vers vous, il ne vous voit pas en tant qu'humain. Il vous voit en tant que cafard. Et c'est pour cela que c'est plus facile pour lui, d'ailleurs, de se dire, je peux tuer même ce cafard. Et on fait quoi au cafard? On le piétine et puis on en passe. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de faire comprendre aux gens que la désinformation, les discours de haine sont un danger, non seulement pour notre pays, mais pour nous. Parce que si on se lève un matin et puis on constate qu'on ne peut pas se parler aux voisins, on ne peut pas travailler dans un même bureau avec quelqu'un qui est différent de nous, on ne peut pas manger sur une même table avec quelqu'un qui sort d'une autre tribu, bien il parlait une autre langue. Vous voyez que ce n'est pas seulement pour le Cameroun, mais pour d'autres choses. Nous sommes là en train d'essayer d'avoir une conversation en français. Imaginez-vous un peu si je commence à me dire, ou bien vous commencez à vous sentir un peu différent parce que peut-être je parle le français, vous n'en parlez pas. Et ça revient dans ce que nous disons. Il faut être tolérant et puis accepter les uns et les autres tels qu'ils sont et essayer de les comprendre comme sont mentionnés dans beaucoup des documents que nous produisons.
Ce podcast vous est proposé par www.koa.com.
Nous sommes de retour avec Desmond Gala et nous parlons avec lui aujourd'hui de désinformation et des discours de haine sur Internet. Desmond, dans l'histoire récente du Cameroun, il y a trois moments qui ont provoqué la montée des messages de haine. On va parler de la crise de Boko Haram,
oui.
Ensuite de la crise anglophone et enfin il y a eu un moment important qui était l'élection présidentielle de 2018. La remarque qu'on a pu faire est que certains organes de presse dans leur titrage à ce moment-là, attisait des discours, ces discours de haine. La question qui me vient à l'esprit est celle-ci. Est-ce que les médias aident vraiment à limiter la propagation des discours de haine et la désinformation au Cameroun?
Merci, je tiens aussi à préciser que vous l'avez mentionné, toi, mais je vais vous dire que les discours de haine existent au Cameroun bel et bien avant ces trois événements. Mais avec l'événement de l'Internet, ça pousse beaucoup plus le discours de haine, que ce soit en online qu'en offline. Parce qu'il y a des discours qui parlent bien, il y a des sujets qui parlent online pour une discussion à la cuisine, lors des réunions, même du bureau et autres. Et il y a même vice-versa. Il y a ces deux. La deuxième des choses, c'est que vous avez oublié le Covid, parce que lors du Covid, nous avons constaté qu'il y a même des médias, les presses écrites, qui ont même titré la diaspora de la honte, c'est-à-dire des personnes qui revenaient au Cameroun, même pour des projets qu'ils avaient planifiés depuis très longtemps. Je crois que le premier problème que nous avons constaté, c'est que les journalistes ont été formés dans un cadre très spécifique et pas en prenant compte du discours des haines spécifiquement, mais l'idéontologie médiatique ou bien journalistique qui disait il faut respecter les gens, il faut respecter les backgrounds des personnes. Et il y avait des mots que les gens s'amusaient à utiliser sur les papiers. Et quand il y avait des rédacteurs en chef, ils laissaient ça passer. Et ça fait en sorte que, avec la crise anglophone, nous avons retrouvé des mots, des descriptions sur la presse qui n'étaient pas bien. Même bien avant la crise anglophone, avec l'événement du Boko Haram, nous avons vu, il y a même des personnes, il y a même la presse, la télé, la radio et autres, qui ont décidé même de laisser un certain discours. S'il n'y avait pas la presse, que ce soit webénétique, que ce soit la presse écrite, télé, radio et autres, la crise anglophone n'allait pas atteindre le niveau que ça atteint aujourd'hui. Parce que la presse poussait un certain discours. Et ça façonnait la manière dont les gens raisonnaient et pensaient vis-à-vis cette crise. Nous avons même vu des personnes qui prononçaient des discours en plein télé, plateau de télé par rapport à la crise anglophone, en riant. Des discours qui étaient la sensibilité de ceux-là qui se considéraient comme les anglophones, de certains Camerounais qui n'étaient même pas des anglophones, mais qui comprenaient la crise d'une autre manière. Nous avons aussi vu avec les élections présidentielles de 2018, les tontinats sadina qui est revenu très fréquent. Il y a même les mots qui sortent comme « kam taliban »,« kam toliban ». Donc nous connaissons tout ce qui est taliban et nous connaissons que « kam taliban » sortait du reflet « kamto » et « taliban ». Donc on associait ces deux-là. Mais nous avons aussi constaté que ce n'était pas d'un seul camp, c'était des deux côtés. Des personnes qui se disaient « vous êtes tous des voleurs, ceux qui soutiennent tel candidat sont comme ça, ceux qui soutiennent les autres candidats sont aussi comme ça ». Donc, les médias ont poussé et ils ont accepté. Chaque média, certes, a sa ligne éditoriale, qu'il a le choix de respecter et autres, mais nous avons vu comment les médias ont, ce que nous disons vulgairement en anglais, « frame » les discours. Ça a essayé de façonner les discours « offline » que online, et chaque matin nous voyons sur les réseaux sociaux des personnes, des comptes qui s'amusent à prendre des pages des journaux et qui balancent, et nous voyons sur les statuts WhatsApp, sur les Facebook stories, sur les Instagram stories et ainsi de suite, comment des personnes poussaient ce type d'informations d'ailleurs chaque jour. Oui.
Et est-ce que vous avez le sentiment que les médias aujourd'hui sont sensibles aux messages que vous passez en tant que organisme ou organisation qui lutte contre les discours de haine? Est-ce que de votre point de vue, vous pensez que ils se disent maintenant il y a des choses qu'on peut plus dire comme on les disait avant?
Je crois que ça commence à changer. Ça commence à changer davantage. Nous voyons beaucoup plus d'engagement. Je suis pas en train d'annoncer peut-être nos projets dans le futur, mais je veux me capitaliser sur ce que nous avons déjà fait et ce que nous avons déjà constaté. C'était très bien hier de voir sur les réseaux sociaux le mot anglophone. C'est quelqu'un, quand on utilise anglophone, c'était considéré comme vous étiez une deuxième personne. Mais aujourd'hui, ça change parce que les médias ont fait quelque chose là-dessus. Nous avons aussi vu que de plus en plus, certains médias refusent de donner la place et donner le plateau à ces personnes-là qui utilisent certains mots dans la société. Si vous êtes champion de prononcer des discours considérés comme des discours de haine, pas tout le monde, vous allez voir que même les médias qu'on les ciblait, on les taclait, on dit que c'est vous, ils commencent à dire non, ce discours n'est pas bien, donc on ne peut pas vous inviter. Ce sont des choses que les médias commencent à faire.
Et maintenant, en tant que représentant des organisations qui luttent contre ces fléaux, des informations, discours de haine, Quelles sont de manière concrète vos actions quotidiennes sur le terrain pour réduire ces fléaux qui, on l'a bien compris, minent nos sociétés?
Je crois que nos actions sont, je peux le diviser en quatre. C'est cinq, mais je vais me limiter à en quatre. La première, c'est la formation qui passe par tout le monde. La formation que je veux même dire l'éducation. L'éducation des journalistes aux dangers qui peuvent causer les discours de haine. D'abord, pour identifier un discours de haine et savoir que ça, c'est un discours de haine. Mais deuxièmement aussi, les dangers que ça encourt en tant que pays quand nous continuons. L'éducation au sein même de la jeunesse, des associations des jeunes, nous avons eu à cibler pour dire voilà les causes des discours de haine, voilà les manifestations et voilà les dangers. Et comment faire pour éviter tout ceci? Voilà alors des actions que vous pouvez mener. La deuxième des choses que nous faisons, la production de supports. Nous sommes à la deuxième édition du guide pratique pour l'atténuation des discours de haine en ligne, qui est un document qui existe en fichier numérique, aussi gratuit sur notre site www.divaedna.org. En 2022 aussi, nous avons produit rien que des affiches aussi qui étaient en pidgin, pour utiliser dans les communautés qui se sentaient beaucoup plus à l'aise en pidgin et dans les médias en pidgin qui broadcast seulement en pidgin. Donc, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est comment utiliser la technologie pour nous assister. Tout à l'heure, je vous parlais des logiciels, des algorithmes que les médias peuvent utiliser pour pouvoir stopper ou bien bipper à chaque fois qu'un mot est prononcé. Et puis dites à l'invité ou bien aux journalistes, vous avez failli à nos initiatives. Et cette technologie ne va pas seulement à développer des applications, essayer de pousser des personnes à voir que la technologie peut aider, limiter un certain discours parce que vous voyez des alternatives au niveau de la technologie. Et je vous dis aussi que lors de nos recherches, nous avons constaté que rien que le manque du travail pousse certaines personnes à prononcer des discours de haine envers d'autres personnes parce qu'ils pensent que voilà les opportunités économiques qu'on pourrait peut-être prendre pour nous et que quelqu'un d'autre en a pris. La quatrième et la dernière, c'est un système des alertes précoces. Chaque jour qui passe, nous essayons de dire voilà tel mot qui est utilisé 2 à 3 fois pour définir, pour faire référence à telle chose. Et ces mots, certains sont utilisés offline, certains sont utilisés online. Quand c'est online, ce que nous faisons généralement, c'est que nous sommes un partenaire de confiance de Meta à travers ces plateformes Facebook et même WhatsApp et Instagram, que nous pouvons signaler ces mots avec eux, on en discute, on voit si c'est bon, ils vont réduire la visibilité de ces mots ou bien supprimer complètement. Les actions, oui, on peut en revenir dessus pour voir si réellement ça fonctionne bien ou pas. Mais deuxièmement, c'est que quand c'est dans la communauté, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons beaucoup plus avec les autorités. Nous interpellons, que ce soit les délégations de la jeunesse, que ce soit les mairies, que ce soit les sous-préfectures, que ce soit la police et la gendarmerie. Voilà tel fléau qui est en train de se dessiner ici. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, il faut s'intéresser, il faut faire mener des enquêtes là-dessus. Et que à la fin de la journée, on puisse avoir clairement une réponse à ceci. Et nous avons vu dans certaines communautés des choses qu'on a pu signaler, des réponses ont été apportées. Et puis, en quelque sorte, en grosso modo, voilà ce que nous faisons pour lutter contre les discours de haine.
Retenir au terme de cet entretien avec Desmond Ngala, c'est que l'action des acteurs de la société civile qui luttent contre le fléau des discours de haine et de la désinformation commence à porter ses fruits, même si le travail d'éducation de toutes les couches de la société reste un chantier de grande envergure. Nous notons aussi que l'espoir est de mise car les acteurs politiques, institutionnels, économiques et médiatiques commencent à comprendre le danger que représentent les messages problématiques diffusés en ligne. Cet épisode de N.com est arrivé à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast a désormais une page dédiée sur LinkedIn. Vous pouvez vous y abonner et y poursuivre cette conversation. Le podcast est disponible sur les plateformes Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et Colorful. Avec cet épisode, nous clôturons la saison 2 de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté tout au long de cette année. En vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année, je vous donne rendez-vous en 2023 pour de nouvelles explorations de l'environnement, des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. À bientôt.